nanoedition.fr.
En fait, au Liban, on s'attend toujours à ce qu'il se passe quelque chose. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours vécu dans mon enfance. J'avais toujours l'impression que bah, du jour au lendemain, il pouvait se passer quelque chose. Alors, moi, je m'appelle Alma Moultaka. J'ai 18 ans. Et bah voilà, j'ai vécu toute ma vie au Liban et ça fait 3 ans que je suis à Paris. Moi, je suis arrivée au Liban quand j'avais 4 ans. En fait, avant, je vivais à Paris, sauf que mes parents se sont séparés. Du coup, ma mère a décidé de partir au Liban. C'était assez spécial comme vie. Enfin, j'ai vécu dans un quartier, pendant 7 ans, j'ai vécu dans un quartier musulman qui s'appelait Ras Annaba. Et ensuite, 7 ans plus tard, je suis allée dans un quartier qui est chrétien, qui s'appelle Ashrafieh et qui est plus au centre de Beyrouth. Et au Liban, il n'y a pas de transport en commun, donc on n'est pas très autonome. Donc depuis que je suis petite, bah, pour me déplacer, c'est ou ma mère qui m'emmène, en taxi, et très peu à pied, parce qu'il n'y a pas trop de trottoirs, et que ma mère avait un peu peur que je me fasse écraser.
Alma est franco-libanaise. Elle est née à Paris, et a vécu de ses 4 à ses 16 ans à Beyrouth, aux côtés de sa mère. La vie d'Alma était au Liban, mais partir était un horizon.
En fait, au Liban, on s'attend toujours à ce qu'il se passe quelque chose. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours vécu dans mon enfance. J'avais toujours l'impression que bah, du jour au lendemain, il pouvait se passer quelque chose. Et en fait, pendant le Covid, on sentait que bah, la situation économique, elle allait très mal. Parce que dès 2019, avant le Covid, il y avait une grande succession de la Thawra. En arabe, ça veut dire la révolution. Et on faisait beaucoup de manifestations contre le parti parce que la corruption, etc. Et ma mère en a pensé, elle s'est dit peut-être qu'il faudrait partir en France, mais c'était un peu un sujet de conversation qui était un peu à l'horizon, quoi. C'était un peu mis de côté, on n'en parlait pas sérieusement.
Le 4 août 2020, une double explosion se produit dans le port de Beyrouth. La deuxième explosion, beaucoup plus violente et destructrice que la première, se produit à 18h, détruisant et endommageant une grande partie de la ville, provoquant alors la mort de 235 personnes et blessant 6500 personnes.
Après le 4 août 2020, il y a eu l'explosion du port de Beyrouth et moi qui étais à Beyrouth, je me suis dit, j'ai plus envie de vivre là, que c'était trop, je crois. Et j'ai dit à ma mère, moi je pars, je m'en fous de ce que tu penses, je m'en fous de ce que tu me dis, je m'en vais. Et au final, on a fait les démarches et au bout d'un mois, je suis partie. Voilà. Du coup, après l'explosion, pendant un mois, on a vécu sans fenêtre. Donc on avait des bâches à la place des fenêtres. Donc c'était assez marrant comme expérience. Enfin, il y avait toujours le bruit du vent dans l'appartement. Et oui, en fait, les portes, j'avais plus de portes pendant un mois. À part notre porte d'entrée, le reste, c'était totalement... Les canapés étaient déchiquetés. Et en fait, moi, il y a une image qui m'a marquée. C'était que... Dans ma chambre, j'ai un lit qui est à côté d'une fenêtre, d'une baie vitrée. Et cette baie vitrée, elle a été soufflée vers le dehors. Je vis au 8e étage. Et ça m'a tellement marquée parce que je me suis dit, si j'avais été sur ce lit à ce moment-là, j'aurais été soufflée à l'extérieur de mon appart. L'explosion, ça a été l'élément déclencheur, quoi. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'explosion, je ne serais peut-être pas partie. Enfin, je ne sais pas comment elle aurait été, la vie, elle aurait été différente. Mais en tout cas, ça a vraiment été ça qui m'a poussée à partir, quoi. Moi, j'ai le passeport français, mon père habite en France, j'ai un peu de famille en France. Et puis ma sœur, elle vit en France depuis que j'ai 10 ans. Donc en fait, c'était une évidence d'aller à Paris, quoi. C'était ou Beyrouth ou Paris, en fait. Et du coup, on a choisi Paris. Moi, j'ai toujours rêvé de vivre à Paris. Donc, en même temps, j'avais pas trop envie de partir parce qu'il y avait mes amis, j'avais ma vie. Mais en fait, c'était tellement prompt, c'était tellement rapide que J'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. Donc on m'a dit tu pars et j'ai dit ok. Enfin ouais, le 4 août, ça m'évoque plein de choses. C'est voilà, c'est triste et à la fois c'est quelque chose qui m'a fait renaître en quelque sorte. Parce que après le 4 août, j'ai été une autre personne. Ma vie, je la vois un peu comme un avant le 4 août et un après le 4 août. Et je suis pas du tout la même personne. J'étais pas chez moi. Si j'avais été chez moi, je serais pas là aujourd'hui, je crois. Parce qu'en fait, j'habite à 5 minutes du port. Après l'explosion, j'étais un peu... Enfin, c'est assez étrange. Mais j'étais plus là. Enfin, c'est-à-dire que j'ai fait pas un transfert, mais je me suis écartée de ce qui s'est passé. Et pendant un an, j'ai l'impression de pas vivre pleine. Enfin, c'est-à-dire que j'étais toujours là, je voyais ce qui se passait, mais je ressentais pas grand-chose. J'étais un peu. Voilà, donc tous les jours, c'était un peu un 4 août. C'est-à-dire que chaque jour, je ressassais ce que j'avais vécu et tout. Et ouais, c'était difficile, mais en même temps, vu que je suis partie très vite, bah, ça a fait que je suis arrivée dans un nouvel environnement où le 4 août n'était même pas une date importante, c'était juste un 4 août comme un 5 août, comme un 6 août. Je me souviens que la genre, première semaine où je suis arrivée en France, j'étais en cours et il y avait un avion qui avait brisé le mur du son. Moi, j'ai eu hyper peur. Et puis les gens comprenaient pas, en fait. J'avais personne à qui partager cette peur, parce que avec mes amis du Liban, quand on entend des feux d'artifice, quand on entend des choses un peu assez fortes, on se comprend toutes. Mais après, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer au Liban. J'avais peur un peu. J'avais peur de revoir la ville. J'avais vraiment peur d'y retourner. Donc en fait, la première année, j'y suis retournée 2 semaines en un an parce que c'était trop difficile pour moi d'y retourner. Puis maintenant, ça va mieux, quoi. Mais c'est vrai que les 2 premières années, c'était assez compliqué.
Alma avait peur de retourner au Liban. Peur car elle y avait vécu un événement traumatique, devant quitter son pays précipitamment. Mais aussi peur de devenir étrangère à cette ville dans laquelle elle avait vécu 12 ans. Peur de se retrouver face à ses souvenirs, à l'oubli. Malgré tout cela, l'explosion du 4 août 2020 n'a fait qu'anticiper et précipiter un départ qui était à l'horizon. Alma savait qu'elle ne voulait pas vivre indéfiniment au Liban. Aller étudier et vivre à l'étranger apparaissait comme une évidence pour elle.
Depuis que je suis petite, je sais que à mes 18 ans, je pars. Enfin, ça, c'est un truc qui est vraiment imprégné dans la jeunesse libanaise. C'est... pas toute la jeunesse, parce que pas tout le monde a les moyens, mais on sait que à 18 ans, après le bac, on part. On sait pas où, mais on part. Et moi, je savais très bien qu'après le bac, je partais à Paris. Donc en fait, je l'ai eu deux ans avant. Mais voilà, pour moi, la France, c'était l'avenir, c'était l'art, tous les possibles. C'était découvrir plein de choses, aller dans des expos, aller au cinéma. Enfin, j'avais hâte, quoi. Hâte de pouvoir faire plein de choses et aussi l'indépendance. Parce qu'encore une fois, voilà, au Liban, si t'as pas de voiture, si tu sais pas conduire, quoi, c'est hyper compliqué. Donc quand je vais en vacances, moi j'ai un peu de mal parce que je peux pas trop me déplacer comme je veux. Moi quand j'étais petite, j'ai toujours adoré l'art, le cinéma et tout. Sauf que le problème, c'est que le Liban, l'art a pas trop sa place, quoi. Parce qu'en fait, le gouvernement, les gens qui sont au pouvoir, ne veulent que de l'argent dans leur poche. C'est juste ça qu'ils veulent. Ils n'ont aucun amour pour le pays dans lequel ils vivent. Ils n'ont aucune reconnaissance pour le Liban. Il n'y a aucun amour pour ce pays, aucune envie d'améliorer les choses. Et en fait, voilà, je pense que leur priorité, ce n'est absolument pas les gens qui vivent au Liban. Je pense qu'ils n'ont jamais ouvert un livre. Je ne sais même pas ce qu'ils ont lu dans leur vie. Mais ce qui est hyper dérangeant, c'est que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est des gens qui étaient au pouvoir pendant la guerre. C'est des gens qui ont assassiné des gens pendant la guerre et qui sont toujours là aujourd'hui. Et donc oui, leur priorité, c'est absolument pas l'art. Il y avait un cinéma qui s'appelait Métropolis, qui était un cinéma qui était à côté de chez moi, et c'était le seul cinéma de Beyrouth qui diffusait des vieux films. Sauf qu'il a fermé quand j'étais en seconde. Et je me souviens que quand j'ai appris ça, j'ai pleuré parce que je me disais que c'était le seul lieu qui me rapprochait un peu de ma passion pour le cinéma. Et après, pour aller au cinéma, il fallait que j'aille au centre commercial. Et moi, ça me déprime trop de devoir aller au centre commercial avec tout le monde pour pouvoir aller voir un film. Et puis en plus, ils diffusaient pas tout. Enfin voilà, et puis... Donc voilà, c'était très frustrant. Après, si je devais réaliser quelque chose, pour l'instant, parler du Liban, pour moi, c'est une évidence. Et donc, j'aimerais bien faire un documentaire sur la jeunesse au Liban, la jeunesse libanaise. Et voilà, moi, parler de ma jeunesse au Liban, d'une jeunesse qui baigne un peu dans cette incertitude, aussi dans un pays où les choses vont pas très bien, mais en même temps, dans l'espoir d'aller autre part. Et aussi, bah, j'aimerais bien faire un parallèle avec la génération de mes grands-parents qui ont vécu le Liban avant-guerre, un Liban dont on parle pas beaucoup finalement, parce que la guerre est assez présente dans l'histoire, et mes parents ont vécu toute leur jeunesse dans la guerre, donc c'est vraiment la guerre, mais on parle pas beaucoup de avant la guerre, comment c'était. Et donc j'aimerais bien faire voilà, ce parallèle entre l'avant-guerre, après-guerre. Je me suis dit, bah, je vais tenter le théâtre, j'en ai jamais fait. Et en fait, c'était une révélation. J'ai adoré ça. Parce que mes grands-parents, ils faisaient du théâtre. Sauf que leur théâtre, il a été détruit après la guerre. Enfin, à cause de la guerre. Et après la guerre, ils ont été un peu en dépression depuis. Et c'est ce qui fait qu'ils ne sortent plus de chez eux. Parce que la guerre a détruit un peu tout ce qu'ils avaient fait. Mais j'ai jamais été hyper intéressée par le théâtre. Parce qu'au Liban, il n'y a littéralement pas de pièces de théâtre. J'en ai jamais vu de ma vie. Avant d'arriver en France, j'en ai jamais vu de ma vie. Et du coup, ça a été un peu une révélation pour moi quand je suis arrivée à Paris. Je suis arrivée dans un théâtre. C'était comme rentrer dans une église et soudainement avoir la foi. Sauf que c'est avec le théâtre. Je suis rentrée là et je voyais des acteurs jouer en vrai. Et je me disais, waouh, c'est génial. Je sais pas, je me dis devoir partir de son pays parce qu'il a plus rien à nous offrir et parce qu'il est dans un état tellement pitoyable qu'on peut même pas vivre dans le pays de nos racines, quoi, dans lequel mes grands-parents ont vécu ou toute ma famille a vécu, bah c'est aussi hyper injuste, quoi. Et donc moi je suis hyper chanceuse, je fais partie des plus chanceux de la population libanaise. Et quand j'étais petite, surtout après l'explosion, en arrivant à Paris, je culpabilisais beaucoup parce que je me disais, moi j'ai eu la chance de partir et moi j'ai la chance d'habiter dans le 5e arrondissement à Paris, quoi, c'est pas dégueu. Et il y en a qui ont même pas la chance de se payer du pain, quoi. Et donc là vraiment j'ai beaucoup culpabilisé. Bon, après avec le temps je me suis rendu compte que c'est pas que ça servait à rien, mais évidemment bon, il fallait trouver des moyens d'aider, mais que culpabiliser ça allait pas m'aider, quoi. Donc là ça va mieux, mais oui, je fais partie d'une génération et en tout cas d'un microcosme qui est vraiment chanceux, quoi, qui a l'argent et qui a les moyens de faire ce qu'il a envie de faire. Je suis hyper reconnaissante de ça. C'est difficile parce que j'ai l'impression d'appartenir nulle part. Quand je suis au Liban, je suis pas vraiment considérée comme une Libanaise, et quand je suis en France, bah, vu que j'ai pas vécu toute ma vie en France, que j'ai pas toutes les références, et que en même temps je parle arabe, et en même temps j'ai vécu toute ma vie au Liban, donc j'ai une autre culture, bah, je me sens pas trop française non plus. Donc c'est un peu compliqué, mais je pense que je vais réussir à trouver un juste milieu à un moment donné, quoi. Ma mère, elle est restée au Liban parce qu'elle a tout son travail au Liban, je pense qu'elle aime pas, enfin, ça la déprime un peu Paris. Qu'elle appartient au Liban et qu'elle y tient, quoi. Et donc, pour rien au monde, elle partirait, je crois même. C'est un peu marrant parce que ma mère est un peu dans un déni où elle me dit que tout va bien, alors qu'en fait, tout va pas bien, mais voilà, elle se rassure en se disant que si, les choses iront mieux, alors que moi, j'ai pas trop d'espoir, honnêtement. Mais enfin, c'est facile quand t'as 16 ans et que tu veux partir. Mais quand t'as 50 ans et que tu veux recommencer ta vie autre part, ça, c'est difficile, et je pense que c'est aussi un facteur qui est assez important. Ma mère, par exemple, je sais qu'une raison pour laquelle elle n'est pas partie, c'est parce qu'elle devrait tout recommencer à zéro et qu'elle a tellement travaillé pour avoir ce qu'elle a au Liban que ça serait trop difficile de venir s'installer à Paris. Mon papa, il vit à Paris depuis qu'il a 16 ans. Lui, il a fui la guerre et il est allé faire de la musique à Paris. Et donc, en fait, mon père, même s'il parle arabe et qui fait beaucoup... Enfin, en fait, toutes ses œuvres, elles portent vraiment sur le Liban, sur la guerre. C'est des choses dont il parle. Donc oui, le Liban fait partie de lui, mais je pense que Et lui, pour le coup, c'est un peu le contraire de moi. Il est à la fois français et à la fois libanais, mais dans son entièreté, vu qu'il parle très bien arabe et en même temps très bien français, et qu'il a vécu dans les deux et qu'il fait des allers-retours et qu'en même temps, il vit en France parce qu'il a un amour pour la France et en même temps, il exprime son autre amour pour le Liban à travers son art. Donc oui, c'est un peu le contraire de ma mère, quoi. Pour moi, la double nationalité, c'est un peu la double culture, quoi. Être de double nationalité, c'est appartenir à deux pays et c'est devoir couper sa tête en deux ou couper son âme en deux plutôt et devoir être à la fois dans un et à la fois dans l'autre. En fait, moi, j'ai toujours eu ce sentiment qui fait que je choisisse. Mais des fois, je me dis, j'ai peut-être pas besoin de choisir, je peux être les deux à la fois. Ouais, enfin vraiment, cette double nationalité, c'est une richesse. Vraiment, c'est une richesse. Je me rends compte que du coup, j'ai deux visions différentes du monde. Surtout que le Liban et Paris, la France, c'est deux pays tellement différents. Donc je suis très contente d'avoir cette double nationalité. Mais après, je sais pas forcément si le passeport, en fait, ça veut vraiment dire quelque chose. Enfin, par exemple, ce qui est terrible au Liban, c'est qu'en fait, si... Moi, par exemple, si je me marie avec un homme qui est français, je pourrais pas donner ma nationalité à mes enfants parce que je suis une femme. Et je considère que même si mes enfants n'ont pas le passeport libanais, ça n'empêche qu'ils seront quand même libanais, quoi. Enfin, c'est compliqué, quoi. Mon père m'a appelé le 26 août et il m'a dit « Tu pars après-demain ». J'ai pas eu vraiment le temps de m'en rendre compte. Ah, c'est bon, je pars. Mais en même temps, je me rappelle de la dernière nuit que j'ai passée dans mon lit au Liban. Et je me rappelle que j'étais là et j'étais assise. Et en fait, il y a un bruit dans la rue qui est répétitif et qui est toujours là. Je sais pas, une fois tous les 3 heures. Et depuis que je suis petite, je l'entends ce bruit et je n'ai jamais su ce que c'était. C'était un peu étrange. J'ai jamais compris si c'était, je sais pas, de l'eau dans des tuyaux. Enfin, vraiment, je pourrais même pas vous le décrire. C'est un bruit qui a toujours été assez un mystère pour moi. Mais je me suis dit, ok, c'est la dernière fois que je vais être dans ce lit en sachant que je vis au Liban et que je vais entendre ce bruit hyper mystérieux qui a toujours été présent toute mon enfance. Et voilà, c'est là la dernière fois. Donc ça a été un peu éprouvant. C'est assez étrange. Des fois, en pleine nuit, à 3 heures du matin, je sais plus ce que je faisais et je l'entendais, j'étais là genre... Et à chaque fois que j'essaie de l'enregistrer, il s'en va et du coup... ouais. Mais je sais, vraiment, c'est difficile à décrire, je saurais même pas si... C'est vraiment, c'est indescriptible. C'est un petit genre... C'est fou parce que c'est toujours le même bruit, c'est tout le temps, chaque 3 heures, donc c'est peut-être... Je sais pas ce que c'est, j'ai jamais su ce que c'était, mais... Il y a peut-être une explication rationnelle, mais je sais pas. Mais oui, juste dans ma chambre. Sinon, je n'entends pas autre part. Donc ça, c'est vraiment dans l'obscurité de la nuit, c'est ce bruit-là qui émane du silence. Enfin, voilà. Quand je suis au Liban, même si j'adore le Liban et que maintenant j'adore aller en vacances, j'ai l'impression d'être sur pause, mais j'ai l'impression que la vie, elle est en France, elle est à Paris, que la vie, le mouvement, mon épanouissement, il est à Paris. Et quand je suis au Liban, j'ai l'impression de faire une pause. Et parfois, je trouve que l'atmosphère en général est différente. Après, je veux dire, déjà la ville et l'infrastructure, ça c'est quelque chose qui est assez... qui est vraiment très très différent. Au Liban, c'est une infrastructure qui est assez compliquée, quoi. Il n'y a pas beaucoup de trottoirs, les gens conduisent pas très bien, c'est assez catastrophique. Mais moi, ce que j'adore au Liban et qu'il y a très rarement en France, c'est la pluie. C'est un peu anodin, mais la pluie au Liban, elle est très différente parce que c'est un climat qui est plus tropical. Donc je me souviens de ces moments dans mon enfance où je regardais la vitre et je voyais au fond le ciel qui était noir et une pluie qui était vraiment différente que celle de Paris. C'était quelque chose avec des orages mais hyper intenses et qui moi me manque énormément. C'est quelque chose que j'adore et je pense que je m'arrêterai pas, j'adorerai toujours ça. Des fois, je me réveille le matin et j'ai comme des hallucinations. Ce que j'adorais aussi, c'est vraiment un élément aussi qui me marquait quand j'étais petite, c'était le bruit du vent dans les tuyaux le matin, quand je me réveillais à 6 heures pour aller à l'école. J'entendais vraiment, c'était un bruit. Et en fait, dans toute la ville, ça faisait comme une symphonie de vent, de tuyaux, que j'adore et qu'il n'y a pas à Paris. Ouais, les gens sont vraiment différents. S'il y a vraiment un truc de fraternité où... Enfin, je dis pas qu'en France, il n'y a pas une fraternité, mais au Liban, c'est vraiment particulier, quoi. C'était... Je sais pas, tu peux marcher dans la rue, t'as besoin de quelque chose. Et là, tu rencontres une dame qui dit « Mais viens sûr, viens chez moi. » Et puis, elle t'accueille, elle te donne à manger, elle te fait plein de trucs. C'est vraiment une culture d'entraide. Et c'est un peu... On se comprend tous, parce qu'on vit tous un peu dans le même chaos, quoi. Et en même temps, on n'est pas amis, mais ça a toujours été vraiment « Viens chez moi, je t'aide et j'attends rien de toi en retour, mais je sais que tu vas le faire aussi, toi, en retour. » Ce qui est différent aussi entre Paris et le Liban, c'est que la plage est à 30 minutes. Donc quand j'étais petite, parfois, genre en hiver, on allait faire du ski et puis après, l'après-midi, on allait à la plage sans se baigner parce qu'il faisait quand même froid, mais on se promenait sur le sable et tout. Et c'était des choses que j'aimais bien. En fait, ce qui est hyper drôle, c'est que le Liban, c'est un pays qui ne fonctionne pas, mais on vit avec. Enfin, on essaie de trouver... Enfin, je sais pas, c'est comme une habitude, quoi. Il n'y a pas d'électricité, il faut monter les 7 étages. Ok. Alors que... Enfin, je sais pas... Moi, ce qui me faisait rire quand j'étais petite, c'est par exemple dans les films américains de fin du monde, le premier truc qui arrivait dans ces films-là, c'était une coupure d'électricité. Alors que pour nous, les coupures d'électricité, c'est genre vraiment une habitude, quoi. Et c'est un truc... C'est un truc normal et... Enfin voilà, c'est un peu... On vit dans une atmosphère qui est assez... vraiment chaotique, quoi. Rien n'est normal. Tout est corrompu, tout est... Oui, mais en fait, j'ai réussi parce que j'ai eu ça de nanana et ça de nanana. Mais pourtant, on réussit quand même à tenir debout. Enfin, à moitié, mais on se dit que oui. Et on parvient un peu à tenir debout quand même, quoi. Mais je pense que le Liban, il n'aurait pas eu ce charme si tout était... droit et bien et tout était civilisé en fait. Il y a une incivilité qui crée le charme à Beyrouth. Que oui, si le Liban est comme ça et si je l'aime comme ça, moi j'ai vécu toute ma vie dans une sorte de chaos. Après, s'il n'y a pas de chaos, c'est bien aussi parce que du coup ça fait que les gens vivent mieux. Mais oui, ça fait partie du Liban, c'est un charme assez particulier d'ailleurs, mais... Et aussi, encore une dernière chose, la langue à Beyrouth, surtout, elle est très différente de Paris, parce que nous, on mélange le français, l'arabe et l'anglais dans une phrase. On parle, on dit plein de mots, by the way, and no, genre, enfin, on dit plein de trucs en même temps, et donc c'est une langue assez particulière. Du coup, ça crée un humour qui est aussi particulier, que je retrouve pas en France, même si j'adore l'humour français, mais voilà, c'est un humour qui est totalement différent. Du coup, j'ai pas le même humour avec les Français qu'avec les Libanais, donc c'est assez marrant, mais voilà, c'est différent. En fait, je me dis si je devais revivre au Liban ou... En fait, ma vie d'avant ne me manque pas. Pour rien au monde, je revivrais avant, parce que c'était quand même des années qui étaient difficiles. Mais le Liban en vacances, c'est génial. Et moi, ce qui manque surtout, c'est la campagne, je crois. C'est la montagne, les montagnes libanaises, les cèdres. Moi, je viens d'un village qui s'appelle Chitine, à Tannourine. Et en fait, c'est un tout petit village où il y a toute ma famille. Et vraiment, c'est magnifique comme village. Et je pense que ça me manque. Et les confitures de ma grand-mère aussi, elles me manquent beaucoup. Parce que ma grand-mère adore la confiture, elle en fait plein. Ça me manque. Et ouais, c'est ça qui me manque surtout. Parfois, j'ai du mal. Des fois, tout d'un coup, je me dis... En fait, j'arrive pas à m'adapter à la France. J'ai envie de retourner au Liban, mais c'est ça qui est aussi perturbant, c'est que quand je suis à Paris, il n'y a pas les bonnes choses au Liban. Une certaine, enfin, c'est moins chaleureux, en tout cas, ça c'est sûr. Mais quand je suis au Liban, bah, y a toutes les choses aussi négatives. Donc c'est encore une fois, ça appuie ce truc de je sais plus trop où j'ai envie d'être. Parce qu'en même temps, à Paris, je me sens pas trop chez moi. Mais en même temps, au Liban, c'est pas génial. Mais oui, il y avait une énorme nostalgie des lieux, en fait, de mon enfance. Les lieux, les rues. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'avais peur de retourner au Liban après l'explosion. J'avais peur de plus reconnaître les rues dans lesquelles j'ai vécu toute mon enfance. J'avais peur qu'ils deviennent étrangers. J'ai pas envie que les rues bougent, j'ai pas envie que les choses bougent. J'ai envie de revenir comme dans la ville de mes souvenirs. C'est-à-dire de revenir dans le Beyrouth que j'ai toujours imaginé. Et parce que ça m'est déjà arrivé de me rappeler d'un lieu de mon enfance et puis après d'y revenir et de me rendre compte que il y a plus toute la magie qu'il y avait dans ma tête, et j'avais peur de retourner à Beyrouth et de perdre la magie qu'il y avait dans ma jeunesse et de perdre les choses que j'aimais, quoi. De me rendre compte qu'en fait je reviens dans une ville qui est totalement étrangère, quoi, qui m'appartient plus.
Un an après l'explosion, la Banque mondiale estime les dégâts à plus de 4 milliards d'euros. Cette double explosion est due au stockage de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium dans le hangar 12 du port de Beyrouth depuis 2013. Le nitrate d'ammonium présent dans ce hangar avait été débarqué d'un navire devant acheminer la cargaison jusqu'au Mozambique. On ignore encore aujourd'hui la raison du maintien de la cargaison pendant 6 ans dans ce hangar. La présence massive du nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth avait été signalée à de nombreuses reprises aux autorités, évoquant la dangerosité et le risque que pouvait causer un tel stockage. Des questions émergent alors petit à petit, notamment sur l'usage possible du nitrate d'ammonium, servant généralement d'engrais, mais pouvant aussi servir à la fabrication d'explosifs. L'enquête judiciaire a été suspendue à de nombreuses reprises. Trois ans plus tard, aucun résultat et aucune condamnation n'a été prononcée. Au cours de cette enquête, l'interférence des autorités a été pointée du doigt de nombreuses fois. L'origine accidentelle ou criminelle de l'explosion est aujourd'hui encore sans réponse. L'identité des responsables est toujours inconnue.